Je reste sur mon thème des 15 derniers jours, avec un angle différent, un angle vraiment différent, parce que il me semble qu'il y a dans l'Écriture des mystères. Alors on n'a pas l'éclairage sur tout, mais il y a des mystères. Par exemple, une guérison divine, c'est un mystère. Le jour où vous expliquez un miracle, évidemment, ce n'est plus un miracle. C'est le principe du miracle, c'est surnaturel, c'est divin, et on ne comprend pas tout. Il faut reconnaître que... Vous me regardez ? Oui ? On ne comprend pas tout, hein ? On ne comprend pas tout. Quand il se passe une action miraculeuse, par contre, on sait pourquoi Dieu va le faire. On ne sait pas comment Dieu le fait, mais on sait pourquoi Dieu va le faire. Et ça fait 15 jours que l'on parle de la prière, qu'on insiste beaucoup sur la prière. Et voilà pourquoi je me suis arrêté sur ce thème-là que l'on trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14. Les dons spirituels sont expliqués au chapitre 12. Et au chapitre 14, on parle précisément du parler en langue et de la prophétie, essentiellement. Je me suis arrêté sur le parler en langue, non pas dans la version prophétique, ce que l'on a entendu ce matin, on a entendu 3-4 parler en langue, et ça a été interprété, il y a eu des prophéties, donc gloire à Dieu pour cela. Mais je vois ça sous un autre angle. L'apôtre Paul le dira, et ça fait partie des quelques versets que nous lisons en introduction. Donc, d'ailleurs, c'est volontairement que je les ai mis dans le désordre. Hein. On commence au verset 18, on retourne au verset 5, puis le verset 2, 4, et on s'en retourne au verset 13. Mais il y a une suite logique à tous ces versets que l'on va lire. Donc, si vous avez votre Bible, on les lit ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue. » Verset 2. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Verset 4. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Et enfin, versets 13 à 17. « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Amen. Je parle en langue plus que vous tous. Paul ne s'est jamais vanté de rien. Il a juste défendu son ministère. Quand dans la deuxième aux Corinthiens, il est bousculé, il va s'adresser d'ailleurs à plusieurs en disant « Déjà, vous êtes riche, déjà, vous régnez, déjà, vous êtes arrivé. » Alors que nous, on rame derrière et on n'y est pas encore. Il ne voulait pas se vanter, mais il voulait ramener les choses à un juste équilibre en leur disant « ne perdez pas la tête, tout est grâce, tout se reçoit avec humilité. » Et quand l'apôtre Paul dit « Je parle en langue plus que vous tous », il ne veut pas les humilier, il voudrait éveiller en eux quelque chose, qu'il y ait un déclic, qu'il se passe quelque chose en eux. D'ailleurs, il le dit « Mais je désire que vous parliez tous en langue ». Et puis il insiste, et vous avez vu le cheminement de la pensée, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue, il s'édifie, celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce. Voyez-vous, c'est un mystère, je vous assure que pour moi c'est un mystère, mais ce n'est pas grave. Si je ne comprends pas le comment, je sais le pourquoi. Ça reste un mystère. Je pense que la plupart d'entre vous êtes baptisés du Saint-Esprit, et si vous ne l'êtes pas, ce qu'on fera, et pourquoi pas, et d'ailleurs ça a été sollicité, ça a été encouragé lors d'une discussion avec un frère. À la fin du mois, on fera un jeûne et prière le dimanche. On n'a quasiment jamais le dimanche. On en fera un le dimanche entre midi et deux, enfin entre les deux réunions. Et je vous inviterai à rester là. Donc ça concerne ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu, ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, ceux qui veulent obtenir des victoires, etc. Donc ce sera à la fin du mois. Vous vous en souviendrez, je vous le redirai. Ce n'est pas écrit dans le Philadelphia parce que c'est en composant, c'est en préparant mon message et puis en réfléchissant à ces dernières discussions, comme je vous l'ai dit, que je me suis dit que ça tomberait bien. Donc le 30, on aura un jeûne et prière ici. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que plus je prie, plus je prends du temps pour prier, plus forcément je parle en langue. Parce que ça fait partie de ma prière. Je dis moi, mais je pense que vous dites la même chose. Je pense que vous pensez la même chose, vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit. En fait, le fait de parler en langue vient compléter notre intercession, notre prière. D'une certaine manière, on retrouve cela. Mais ce qui m'étonne, et j'avoue que j'ai été surpris par ce témoignage, alors que ça fait pas mal de temps que je réfléchis sur justement la prière, comment aller plus loin, comment gagner davantage, comment faire plus, etc. J'ai entendu un témoignage assez extraordinaire. Et je vais vous le livrer tel que je l'ai entendu. Un frère qui est pasteur au milieu de nous, qui est un frère très, on va dire, connu pour sa vision très claire, très, très propre, très calme de la prédication. C'est quelqu'un qui vous fortifie, qui vous enseigne énormément en méditant l'Écriture. Cet homme est retourné au pays, il est africain, et il est retourné dans sa famille cet été. Et il a eu l'occasion, toutes ces dernières années, de retourner dans son pays, de fréquenter des églises qu'il a connues. Et il a eu l'occasion de voir énormément de dérives. Parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique, hein. Dans le monde entier, dès qu'on touche à tout ce qui est charisme, on peut aller très loin grâce à Dieu, mais on peut aller trop loin. Et dans beaucoup d'endroits, ils ont été trop loin. Et il a vu des choses effarantes. Et pour quelqu'un qui est très clair dans sa tête par rapport à la doctrine, ça choque, ça interpelle. Et Dieu sait qu'il est pentecôtiste, donc il aime les choses de la Pentecôte, il les a vues, il les a manifestées, il y croit. Mais, voici son témoignage, cette année, il a eu l'occasion de rencontrer un frère qui est pasteur d'une église de plusieurs milliers de personnes. Et en fait, ils ont parlé ensemble et cet homme semble en ce moment avoir, pardonnez-moi l'expression, le vent en poupe. C'est-à-dire que ça marche énormément, Dieu le revêt d'une onction particulière. À tel point que depuis des tas d'années, dès qu'il y a un endroit où c'est compliqué, difficile, on lui demande s'il ne peut pas y aller. Donc il laisse tomber l'œuvre où il est, elle est confiée à d'autres, et puis il s'en va, il obéit, il s'en va à tel autre endroit. Et au bout d'un moment, ben, il y a la grâce de Dieu, il y a des miracles, il y a des conversions, les choses qui tournaient mal sont remises d'aplomb, etc. C'est assez spectaculaire parce que ça ne s'est pas fait qu'une fois à un endroit, mais ça se répète. C'est ce côté-là qui est assez surprenant. Vous prenez le même, vous le changez d'endroit, ça se répète. Donc, évidemment, derrière cela, on pourrait dire, mais qu'a-t-il de plus? Et on va toujours gratter pour savoir qu'est-ce qu'il a de plus, comment il enseigne, comment il parle, qu'est-ce qu'il fait. Et lui, mais alors avec une grande humilité, expliquer à ce frère qui lui demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Il y a eu quelque chose de particulier qui a fait qu'à un moment donné, alors que le ministère était, on va dire, non, je ne devrais pas dire normal. Je ne devrais même pas dire quelconque, surtout pas. Mais le ministère était en deçà, si vous voulez. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on est passé à cette dimension extraordinaire, surnaturelle? Et ce frère lui a dit, ben en fait, je ne sais pas. Très honnêtement, il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il se passe tout ça. J'en sais absolument rien. La seule chose que je sais, c'est qu'à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu besoin de prier davantage. Et surtout, j'ai eu besoin de parler en langue davantage. Et à ce moment-là, il s'est passé tout ça. Ça m'a interpellé quand j'ai entendu ça, parce que ça allait un petit peu compléter mon puzzle, si vous voulez. Ça allait compléter mon tableau. Et je me dis, et c'est là où je veux vous amener ce matin, et j'espère qu'on pourra y aller ensemble, je veux vous amener à cette réalité que on perd peut-être quelque chose ou on aurait tort de ne pas beaucoup parler en langue. Je pense qu'on aurait tort. Puisque l'apôtre Paul dit « Moi, je parle en langue plus que vous tous ». Alors, je sais qu'il y a un contexte et on ne va pas sortir du contexte. Puisqu'il dit, il fait la comparaison à l'église, à la maison. D'accord ? À l'église, à la maison. Donc là, je vous dis à l'église ce que vous devez faire à la maison. Évidemment, puisque là, on parle de la vie privée. On parle de la vie personnelle, de sa relation intime et personnelle avec Dieu. Comment est-ce que je vis ma relation avec Dieu ? Et là, Paul dit, j'ai décidé, je veux parler en langue, parler en langue, parler en langue, et de plus en plus. C'est quand même quelque chose qui devrait nous interpeller. Parce que j'en reviens à l'expérience initiale que vous connaissez, évidemment. Le parler en langue, ça a commencé à la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Et la promesse s'est accomplie et vous savez que l'Église a été en marche. Pierre a été interpellé parce que c'était la fête, c'était la Pentecôte, tout le monde se rassemble auprès de ces quelques 120 qui louent l'Éternel. Comment les entendons-nous ? Comment les entendons-nous dans notre propre langue apporter les louanges de l'Éternel ? Comment les entendons-nous ? Donc il y avait des Juifs qui venaient de tout le bassin méditerranéen qui étaient rassemblés là. Donc ils ne parlaient pas forcément araméen, ils parlaient peut-être plutôt d'autres langues, à qui parlaient de l'Empire romain ou de l'Asie mineure, etc. Mais ils les entendaient dans leur propre langue. Dieu leur a donné, à ces quelques 120, des langues connues pour que d'autres soient interpellés par cela. Et dans le message, ils louaient Dieu. C'était juste une louange adressée à Dieu. Ça a suffisamment interpellé le monde qui s'est rassemblé. Et puis Pierre, à ce moment-là, a prêché, cette fois-ci en araméen. Il a prêché en expliquant qu'il n'était pas ivre, qu'il n'était pas plein de vin doux, mais que c'était le résultat de la promesse, Joël chapitre 2, verset 28, « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Donc, c'est ce qui a fait dire au monde pentecôtiste, puisque si nous sommes une église de Pentecôte, ça fait référence à ça. Au jour de la Pentecôte, évidemment. Donc, il s'est passé ça à la Pentecôte, mais ça ne s'est pas arrêté à la Pentecôte. On a parlé en langue après. Les disciples ont dû continuer à parler en langue, forcément. Est-ce qu'ils ont compris le sens ? Est-ce qu'ils ont compris à quoi ça servait ? Peut-être pas au début, mais il a fallu un enseignement, il a fallu être éclairé. Mais nul doute que Dieu les a éclairés. D'ailleurs, l'apôtre Paul en donne une explication magistrale dans 1 Corinthiens. Évidemment, on comprend le sens. Mais je m'aperçois que quand Pierre est appelé par Dieu à aller dans la maison de Corneille, un peu plus loin, à Césarée, et c'est presque 10 ans qui se sont écoulés, on se souvient que quand Pierre entre dans la maison d'un païen, il a fallu la grâce de Dieu, il a fallu un miracle pour véritablement qu'il y aille, parce qu'il n'avait pas du tout envie d'y aller. Ça a été miraculeux, il y a été, il rentre dans la maison, il annonce l'évangile, et la Bible dit qu'instantanément, le Saint-Esprit descend et tous les Juifs qui sont là sont convaincus que c'est vraiment l'action du Saint-Esprit parce qu'ils les entendent parler en langue. Et là, personne n'a compris ce qu'ils disaient, mais ils parlaient en langue. Un peu plus tard, encore 10 ans, pratiquement s'écoule, acte 19, l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il rencontre des disciples. De quel baptême avez-vous été baptisés ? Du baptême de Jean ? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul les baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et il leur impose les mains, et quand il leur impose les mains, ils sont baptisés du Saint-Esprit, et ils parlent en langue. Donc, pour nous, pentecôtistes, il y a une relation, finalement, entre baptême du Saint-Esprit, effusion du Saint-Esprit, et parler en langue, mais pas que ça, le côté miraculeux aussi. D'ailleurs, la liste est très longue, il y a un très bon bouquin qui a été fait, il y a des années de cela, et je relisais en diagonale quelques-unes des pages. C'est un bouquin qui rassemble 3 auteurs, l'auteur Thomas Bress, Harold Orton et Donald J. Donc un Français et 2 Anglais. Ça les rassemble dans un ouvrage, et c'est étonnant de voir que les 3 défendent le parler en langue. C'est un dossier sur le parler en langue, c'est le titre du bouquin, Viens et vois avait imprimé ça. Il y a 30 années, il est hyper intéressant. Mais je me rends compte que ces 3-là, sur les 3, il y en a au moins 2 qui étaient issus d'un autre univers que la Pentecôte. Le pasteur Thomas Bress est un pasteur baptiste en Suisse Et il a été touché par la prédication de Douglas Scott. Il est devenu pentecôtiste. Il a vu le résultat. Et la même chose pour Harold Orton, tandis que Donald G. est né dans la Pentecôte. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'eux en rendent témoignage maintenant, mais entre les deux. Ils avaient énormément de témoignages. On parlera de ces grands écrivains des premiers siècles, croyants pour certains ou historiens pour d'autres, Irénée, Tertullien, Chrysostome, qui disaient qu'il y avait des manifestations surnaturelles. Ils disaient qu'il y avait... Alors ils appelaient ça des expériences comme en extase, extatique, parce qu'on voyait les gens parler dans des langues qu'on ne connaissait pas, ça faisait un peu bizarre. Mais c'était des manifestations de l'esprit. Et puis ça a continué avec les Vaudois, ça a continué avec les Albigeois, les Camisards dans les Cévennes. On est au Moyen-Âge, on est en 1700. Il y a eu énormément de manifestations. D'ailleurs, dans ce même livre, vous avez des témoignages dans les années 1900 où des personnes rentrent, je crois que c'est à Uzès, dans une maison. Et là, on invite ces gens à venir dans la chambre où il y a un berceau. Et un enfant d'une douzaine de mois à peu près, entre 12 et 15 mois, totalement emmailloté comme ça, et qui se met à parler dans un français parfait, et qui se met à exhorter ces adultes qui sont là, à la persévérance malgré les persécutions, etc. Et puis ça dure un moment, et puis après l'enfant se remet à gazouiller parce qu'il ne savait pas parler, évidemment. Donc ça, ça les a interpellés. Ça... Toujours eu des manifestations de l'esprit, il y a toujours eu des manifestations comme ça, plus ou moins. On parlera des Quakers, on parlera de méthodistes en Angleterre qui parlaient en langue, on parlera de Jonathan Edwards aux États-Unis. Même l'Église catholique apostolique a vécu ça dans les années 1700-1800. Bref, de partout dans le monde, il y a eu ici et là des manifestations de cette action de Dieu. Ce que je veux vous dire, évidemment, c'est que le réveil, quand il y a eu un réveil, une action de Dieu, ça a toujours été la conséquence d'une effusion du Saint-Esprit. Toujours. C'est parce qu'il y a une effusion du Saint-Esprit qu'il y a un réveil dans les consciences, des miracles et une action de Dieu. Les croyants l'ont désiré, les croyants l'ont réclamé, et ils sont passés forcément par ces étapes-là, repentance, supplication, contrition, effusion de l'Esprit, et puis visitation du Saint-Esprit. Ça ne suffit pas que l'Esprit descende, il faut qu'il nous visite aussi. Il ne suffit pas de dire « il est répandu sur la terre » si notre cœur est sec, ce serait dommage. Alors il faut évidemment que notre cœur soit rempli. Alors en attendant, si vous voulez l'accomplissement de ces promesses, qu'il y ait un réveil, qu'il y ait une effusion de l'esprit, qu'il y ait une manifestation puissante de l'esprit, en attendant, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? On prie. Eh oui, on prie. Et on dit « envoie le Saint-Esprit, encore ». Envoie le réveil, manifeste ta puissance, que les cœurs soient convaincus, que les cœurs soient touchés, que ceux qui hésitent, qui ne sont pas persuadés soient convaincus, que celui qui a des idées suicidaires soit sauvé instantanément et que tout ça disparaisse de son cœur, que l'infirme se relève, qu'il y ait une manifestation de la puissance de Dieu. C'est ce qu'on réclame dans nos prières. Mes frères et sœurs, j'en suis, mais alors, convaincu à 1000%, totalement persuadé. J'en suis convaincu que Dieu nous a donné des outils pour nous entretenir, pour nous édifier et pour nous construire. Et l'outil par excellence, c'est le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, évidemment, la question essentielle, c'est ça. À quoi ça sert de parler en langue? À quoi ça sert? Tous les détracteurs ont posé la question en disant « vous parlez en langue, mais vous n'êtes pas meilleur chrétien que moi ». On n'est pas en train de parler de ça. On n'est pas en train de faire une concurrence. Celui qui ne parle pas en langue, il ne sera forcément pas un bon chrétien jamais de la vie. Mais on est en train de dire « si Dieu nous a offert cela, pourquoi s'en priver ? Si Dieu nous le propose, pourquoi ne pas le prendre ? Si Dieu nous dit que ça peut nous ouvrir d'autres horizons, pourquoi s'en priver ? Pourquoi s'en priver ?» Et c'est ce qu'on trouve finalement dans les textes que je vous ai lus. Alors brièvement, je vais résumer ça. Il me semble que c'est le meilleur moyen de servir Dieu. C'est le meilleur moyen de s'édifier et c'est le meilleur moyen d'intercéder. Plus je parle en langue, plus je bénis Dieu. Plus je parle en langue, plus je me fais du bien. Plus je parle en langue, et meilleure est mon intercession. On va y venir dans un moment. J'en viens au premier point, Il me semble que c'est certainement le meilleur moyen de servir Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans l'action de grâce. Frères et sœurs, celui qui parle en langue parle à Dieu. Vous entendez ? Celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui parle en français pour nous parle aux hommes. Mais celui qui parle en langue parle à Dieu. Et si vous relisez 1 Corinthiens 14, vous allez être édifié, évidemment, mais vous vous rendez compte que l'apôtre Paul dit, évidemment, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ça veut dire que si je le fais, j'ai conscience que c'est parce que je veux parler à Dieu. Je veux m'entretenir avec lui. Je veux avoir un moment à part avec lui. C'est pour ça que je le fais. Alors c'est vrai que quand on est réunis ensemble, ce serait peut-être dérangeant, fatigant, si vous venez au culte et qu'à côté de vous, pendant 40 minutes, 50 minutes, quelqu'un se met à parler en langue très fort sans jamais s'arrêter. Peut-être que ça va vous perturber, vous fatiguer, parce que ça n'est d'aucun intérêt pour vous. Peut-être que Dieu le visite et que Dieu lui fait du bien. Alors, c'est formidable pour lui, mais vous, à côté, vous êtes déconnecté. C'est logique, puisque c'est du chacun pour soi, là. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on le fait à l'Église, mais le plus important, c'est de le faire à la maison. Et d'ailleurs, il dira, je préfère dire une parole avec mon intelligence quand je suis dans l'Église que 10 000 paroles en langue. Ça ne servira à rien. Mais ça sous-entend qu'à la maison, je préfère en dire 10 000 en langue qu'une avec mon intelligence. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué, et c'est souvent ce qu'on dit quand certains veulent être baptisés du Saint-Esprit et qu'ils ont soif et qu'ils aspirent à ce baptême de l'Esprit, on ne peut pas vous contraindre à l'être, on ne pourra même pas vous forcer à l'être. Au mieux, on peut vous aider, on peut vous encourager, on peut prier avec vous. Mais quand même, saisissez et réalisez que si vous prenez un verre et que vous basculez la carafe et que vous remplissez le verre va se remplir. Et si vous n'arrêtez pas de verser, à un moment donné, ça va déborder. De manière très simpliste, on peut dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit vient en nous et que ce bouillonnement est tellement abondant, tellement riche, qu'à un moment donné, ben, ça explose, ça déborde, et tout ce qui en sort, c'est une louange qui retourne vers Dieu. Est-ce que je ne suis pas capable de dire à Dieu avec mes mots ? Tout d'un coup, le Saint-Esprit prend le relais et je le dis avec des mots nouveaux. Parce que quelque part, si on veut louer Dieu, vous serez d'accord avec moi que le français, ce n'est pas la meilleure des langues. Pas plus que l'anglais, pas plus que le russe, pas plus que le birman, pas plus que le maltais ou que sais-je encore. La meilleure manière de louer Dieu, c'est de le faire en langue. Sauf qu'on a un cerveau. Et on s'en sert. Alors bien des fois, on veut louer Dieu, on veut le bénir. Et qu'est-ce que ça fait du bien, n'est-ce pas ? On l'a fait tout à l'heure, hein ? Ça fait du bien de louer Dieu, non ? Vous étiez content de le faire. Vous étiez content de le faire, de louer Dieu, de lui dire pourquoi on est là, ce qu'il a fait pour nous, de quelle manière il nous a sauvés. Mais à un moment donné, on est frustré. Parce qu'on sent qu'on voudrait dire plus, on voudrait dire mieux, et on ne sait pas le dire. Et tout d'un coup, ça arrive très souvent. Eh bien, ce qui prend le relais, vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, c'est qu'on se met à parler en langue. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? Là, on est persuadé que ce qui monte au ciel, c'est parfait. D'ailleurs, l'apôtre Jacques, c'est peut-être un aparté que je vous dis, une parenthèse, l'apôtre Jacques dira que les grands navires sont dirigés par des petits gouvernails. Grands navires, petits gouvernails. On est même capable de diriger les grands bateaux avec des petits gouvernails. Il n'y a qu'une seule chose que l'être humain n'a jamais et ne réussira jamais à maîtriser, c'est un tout petit membre dans notre corps, la langue. C'est ce qu'il dit. Hein. Avec la même langue, on maudit et on bénit. Dans la seconde qui suit, hein, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ça, on ne peut pas le maîtriser. Vous ne pouvez pas. Si quelqu'un vous bouscule dans la rue, vous allez dire « Eh oh !» Ça sort de là. Hein. La langue aura servi à quelque chose, peut-être. Si, voilà, c'est difficilement contrôlable. Par contre, quand on parle en langue, on va se mettre à parler. Mon cerveau a tendance à dire « Arrête, tu dis n'importe quoi. Arrête, ça n'a aucun sens. » Oui, Mais dans la mesure où je sais que je loue Dieu, dans la mesure où je sais que c'est une louange parfaite qui revient vers Dieu, je n'ai pas envie de m'en priver. Le diable sera là pour me dire, écoute, arrête, ça ne sert à rien, tout ce que tu dis là, c'est du vent, personne ne te comprend. D'ailleurs même, tu ne fais que imiter l'autre parce que tu as bien entendu comment, quels sons sortent de sa bouche et tu fais la même chose. Non, moi je crois que le Saint-Esprit peut venir maîtriser notre langue et l'utiliser à sa guise pour rendre des louanges à Dieu. Alors c'est un moyen formidable pour louer Dieu de parler en langue. Évidemment, on le fait quand on est ensemble, mais je crois que c'est encore mieux de le faire et je vous encouragerai tellement à le faire à la maison et faites-le de plus en plus. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce quand tu parles en langue, mon frère, ma sœur. C'est Paul qui le dit. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Ce qui est terrible, c'est que quelquefois, on a l'impression de radoter, on a l'impression de dire la même chose, on a l'impression que ça n'évolue pas. Ça pourrait ne pas évoluer comme ça pourrait évoluer, ça pourrait être très répétitif, nous semble-t-il, et ça pourrait être très très large. Vous comprenez qu'à un moment donné, plus vous parlerez en langue et plus vous sentirez, c'est comme une source qui jaillit. Si quelqu'un a soif, dira Jésus dans l'évangile de Jean, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. C'est écrit, hein ? Fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, jailliront de son sein. Alors il me semble que l'on peut prier, et j'ai rajouté cette notion, évidemment, on peut prier par l'Esprit, on peut chanter par l'Esprit, rendre grâce à Dieu par l'Esprit. C'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'important. Vous comprenez aussi que si vous faites cela, C'est un moyen qui est divin, donc on ne mesure peut-être pas les effets immédiatement, mais ça aura forcément des effets. C'est pas possible que Dieu passe quelque part sans qu'il y ait une odeur, sans qu'il y ait des effets, sans qu'il reste quelque chose. Quelqu'un qui se promène et qui est parfumé, même quand il n'est plus là, vous sentez que la personne est passée par là parce qu'il y a encore l'odeur du parfum. Si Dieu passe par vous, si Dieu vient vous visiter, il en restera quelque chose. C'est une évidence. Il en restera quelque chose. Souvenez-vous, je mets ça quand même dans ce contexte-là, quand Jésus va discuter avec la Samaritaine, il va avoir une discussion très sérieuse et âpre avec elle, et cette femme va dire, vous adorez à Jérusalem, nous adorons ici, sur cette montagne. Et finalement, Jésus dit, Jean chapitre 4, verset 23, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors évidemment, l'adore en esprit, on comprend l'état d'esprit, mais on pourrait dire que l'adorer dans l'esprit, ça fait partie aussi de notre adoration en esprit, ça en fait partie. Alors soyez remplis du Saint-Esprit et allez-y à la maison, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue dans vos temps devant Dieu et cela va vous enrichir. Ça va vous enrichir parce que c'est le meilleur moyen de s'édifier. Alors je mets deux choses en parallèle évidemment, je parle spirituellement. Parce que pour s'édifier intellectuellement, pour ça on a la parole de Dieu et on a les livres. Et les deux vont de pair, hein ? Les deux vont de pair, on a besoin des deux. Les deux nous encouragent et nous fortifient. Mais il me semble, et là je parle d'abord de spirituellement, c'est un moyen de vous édifier, c'est votre temps à vous. Je vous disais ce témoignage, me semble-t-il, ou peut-être pas, quelqu'un qui me racontait cette histoire-là, dans leur église est passé un serviteur de Dieu qui a prêché, et ce serviteur de Dieu avait l'habitude de passer régulièrement dans cette église-là. Donc, il était régulièrement sollicité, régulièrement il prêchait, et le pasteur le connaissait, évidemment. Et cette fois-là, à l'issue de la prédication, celui qui l'avait invité, alors qu'il s'en retourne chez lui, et c'était le témoignage qu'il me rendait, celui qui s'en retourne chez lui dit à son épouse, « Quelque chose a changé chez le frère. On voit qu'il a passé du temps devant Dieu. » C'est surprenant, hein ? Manifestement, la prédication était comme les autres fois, sauf qu'il y avait une dimension plus élevée. Et quand on a poursuivi l'enquête, hein, on a compris que ce frère-là avait passé beaucoup plus de temps devant Dieu qu'avant, pour X raisons, pour des tas de raisons évidemment justifiées. Mais il y a une marque du divin, il y a une marque, il y a un sceau, il y a quelque chose qui se produit. Et frères et sœurs, on va s'édifier hein, spirituellement, en parlant en langue à la maison, parce que c'est un moment à part, c'est votre moment avec Dieu. C'est le vôtre. Faites-en ce que vous voulez. C'est votre temps devant Dieu. Ne vous laissez pas voler ce temps. Ne vous laissez pas prendre ce temps. Quand on est ainsi devant Dieu, il y a plein de choses qui nous passent par l'esprit. Alors on prie en français, on prie en langue, on prie pas en français, on reprie en langue, on parle en langue et puis on reparle en français. Parce que systématiquement, il y a des pensées qui nous viennent et puis on veut prier pour tel et tel sujet, tel cas. On prie pour soi, on prie pour la puissance de Dieu à l'œuvre. Quelque part, c'est un acte de foi, évidemment. Plus je parle en langue, plus je fais un acte de foi. On pourrait parler d'abandon, on pourrait parler de consécration. J'ai connu des personnes qui ne prenaient pas leur place dans la vie de l'Église au travers des dons spirituels. Parler en langue, prophétie ou autre, interprétation des langues, etc. Ils n'y arrivaient pas. Et puis quand ils ont commencé à prendre beaucoup plus de temps, personnellement, tout seul chez eux, à parler en langue, à louer Dieu, à un moment donné, on les a entendus dans l'Église. C'est incroyable, hein ? À un moment donné, ils l'ont fait dans l'Église. Comme quoi, ils ont été édifiés en secret. Ils avaient besoin de cette édification, ils en avaient vraiment besoin. Ils ont été édifiés en secret, et la conséquence, ben, c'est que ça a été une bénédiction pour tout le monde, puisque tout le monde en a profité après. Je dis spirituellement, évidemment. C'est quelque chose qui est édifiant parce qu'on se laisse façonner par Dieu. Dieu va vous révéler des choses, Dieu va vous expliquer des choses sur vous-même, sur les autres, sur la situation générale, sur la situation de personnes pour lesquelles vous priez. On y viendra dans un moment. C'est important. Maintenant, intellectuellement, j'insiste, il y a la parole de Dieu pour cela, pour la révélation, pour l'instruction. Il y a des livres aussi pour nous instruire. Mais j'aimerais vous dire ce que j'ai mis là. L'un ne remplace pas l'autre. Non. Par contre, quelle part va-t-on donner à l'un et à l'autre ? De selon la part que nous donnerons, nous serons plus intellectuels ou plus spirituels, juste pour reprendre les deux thèmes, spirituellement, intellectuellement. Si je verse davantage dans ce qui est de la culture, de l'instruction, sans précisément une révélation, une huile fraîche, des fraîches rosées qui descendraient d'en haut, je deviendrais intellectuel, très fondé, très juste, très biblique. Si par contre, je me dis la parole de Dieu, c'est bien, mais moi, je suis directement connecté avec le ciel, je n'ai pas besoin de la parole de Dieu, je risque d'être déséquilibré. Je risque de manquer d'équilibre. Je risque de ne pas m'appuyer sur mes deux pieds solidement. Il y a quelque chose qui va être tangent, qui va être limite. J'ai besoin des deux. Mais je peux vous garantir, me semble-t-il, que c'est bien de donner au moins par égal aux deux, au moins par égal aux deux, et de donner au moins autant de temps à notre présence devant Dieu, à notre temps de prière devant Dieu, qu'à la lecture de la Bible, les bouquins venant après, bien évidemment. Mais c'est important. Quelle part ? Et selon la part, selon notre choix, il y aura des conséquences et il y aura des fruits qui seront différents. Ce qui est certain, c'est que dépendre de Dieu reste le meilleur pour chacun d'entre nous. Et enfin, je parle de l'intercession. Ce sera le meilleur moyen d'intercéder, me semble-t-il. Quelquefois, on prie, je ne sais pas vous, hein, mais on est à court d'arguments. On ne sait plus quoi dire. On l'a dit à l'endroit, on l'a dit à l'envers, on l'a dit de haut en bas, on l'a dit de bas en haut, on l'a dit en travers. On ne sait plus comment le dire. On ne sait plus, on ne sait plus. Des fois, on est à court d'arguments. Parlez en langue, mes frères et sœurs. Allez-y. Parlez en langue, ça prendra le relais. Vous y reviendrez après. Allez-y, n'hésitez pas. Quand on est à court d'arguments, quand notre zèle diminue, ça fait 10 ans qu'on prie pour ce cas, ça fait 20 ans qu'on prie pour cette situation. Depuis le commencement, tout demeure dans l'état, rien n'a changé. Vous dites que Jésus vient, c'est écrit hein, dans les Épîtres. On ne voit rien changer. Il peut y avoir une forme de découragement qui s'installe aussi. Hein. et surtout quand rien ne change, et quand on ne sait plus quoi demander. Je mets en parallèle ce texte, prenez-le comme vous voulez, mais il y a certainement une concordance, si elle n'est pas littérale, elle est au moins dans l'esprit. Romains chapitre 8, verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Il est possible que quand vous ne saurez plus quoi dire, vous ne saurez plus comment le demander, quelquefois d'ailleurs on est devant des problèmes, on ne sait plus s'il faut demander la guérison, la délivrance, sous-entendu la mort, un répit, la capacité de supporter l'épreuve, on ne sait plus, on ne sait pas ce qu'il faut demander. Mais parler en langue, Saint-Esprit ne se trompe jamais. Et on est sûr que l'intercession qu'il montera au ciel sera la plus efficace pour celui qui en a besoin. Ce sera la plus efficace pour celui qui en a besoin. Dans l'épître de Jude, il est dit ceci, je vous ai noté juste la référence, verset 20. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Jude 20. « Vous édifiant sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Quand vous ne savez plus quoi dire, parlez en langue, frères et sœurs. Là, je pense que vous ne serez jamais à court d'arguments. Jamais. Vous verrez que la source, elle ne se tarit pas. Ça n'arrivera pas qu'en parlant en langue, à un moment donné, vous vous ressaisissiez en disant « Je ne sais plus quoi dire en langue. » Ce n'est pas possible. Simplement pas possible. Mais autant que le Seigneur vous remplit, je suis persuadé, autant il vous remplira. Autant vous le ferez, autant vous aurez envie de le faire. C'est fou. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais je sais pourquoi Dieu le fait. Je sais pourquoi Dieu le fait. Parce qu'il veut que l'on soit évidemment plus à même d'être en communion avec lui, plus à même d'être en bénédiction. Il me semble que parler en langue, j'insiste, quand je vous dis « vous ne savez plus quoi dire, alors parlez en langue », comprenez bien que ce n'est pas la dernière option, mais plutôt la première recommandation. Vous saisissez ? Ce n'est pas parce qu'on ne peut plus rien dire d'autre qu'on va parler en langue. En fait, on devrait commencer par ça. Et tout ce qui vient par derrière avec notre intelligence, c'est un support, ça vient donner de la clarté à ce que je suis en train de demander, de dire, mais n'ayons pas peur. Je me souviens d'un frère, d'un témoignage saisissant, d'un frère qui expliquait ceci, il était tout jeune à l'époque, et il devait, la guerre d'Algérie était battait son plein, et il craignait d'être appelé, il n'avait pas du tout envie d'y aller, sauf que il était pied noir, donc il parlait parfaitement arabe, et il craignait d'être enrôlé pour servir d'interprète, etc. Donc il n'avait absolument pas envie d'y aller, il était chrétien. Et un soir, alors qu'ils étaient réunis à plusieurs jeunes, beaucoup d'ailleurs sont entrés dans le ministère, il priait et lui, dans son cœur, avait supplié Dieu, « Je ne veux pas y aller, fais un miracle, ne permets pas qu'on m'appelle, c'est pas possible, je ne veux pas y aller. » Et à un moment donné, ce même frère qui venait de prier pour dire « Seigneur, je ne veux pas y aller » s'est mis à parler en langue. S'est mis à parler en langue. Sauf que c'était une langue connue et parmi ceux qui étaient là, donc ce n'était pas quelque chose de surnaturel, mais quelqu'un était là, a compris. Là, ce n'était pas surnaturel, c'est juste qu'il comprenait la langue. Et dès qu'ils ont eu fini de prier, cet homme a éclaté de rire. Alors je ne vous dis pas, celui qui priait pour ne pas partir en Algérie, s'est senti un peu vexé quand même, de dire « Oh, c'est sérieux, je n'ai pas envie d'y aller. » Et l'autre a ri, et il dit « Mais pourquoi tu ris ?»« Mais comment, pourquoi je ris ? T'as pas compris ?» Il dit « Mais qu'est-ce que j'ai compris ? J'ai rien compris. »« Non, mais tu réalises pas ?» Il dit « Non, je réalise pas. Quoi ?» Il lui dit « Tu viens, en parlant en langue, tu as parlé dans telle langue, tu viens simplement de demander à Dieu de te garder là-bas parce que tu sais que tu vas y aller. Tu sais que tu vas y aller. » Et tu viens de le supplier de t'aider là-bas, de te garder de la mort. C'est incroyable. L'Esprit sait quoi demander. C'est la première recommandation. Ce n'est pas la dernière option. C'est la première recommandation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que vous allez dire quand vous allez parler en langue, va détricoter ce que vous avez fait avant et va enlever tout ce que vous avez dit avant. Mais je soupçonne et je pense que quand, franchement, on a du temps, alors parler en langue dans nos temps de prière sera certainement plus efficace que de le faire avec notre bon français, avec notre beau français. Ce sera certainement beaucoup plus édifiant, ça servira beaucoup plus à la gloire de Dieu, et il me semble que ce sera bien plus en bénédiction sur ceux qui sont autour de nous. C'est ma conclusion. Tite le dit au chapitre 3 et au verset 5, je vais vous citer cela, en vous rappelant, là vous avez que le début et la fin de ces versets, mais si vous le faites, vous allez être bénis, vous allez bénir les autres, et frères et sœurs, vous allez être étonnés. Il va se passer des choses chez vous. Il va se passer des choses dans votre famille. Il va se passer des choses dans l'Église. Il va se passer des choses autour de nous. Parce que l'apôtre Paul le disait, il faut être rempli de l'Esprit. Et une fois qu'on est rempli de l'Esprit, alors il ne faut pas se priver de cela. Tite dit au chapitre 3 et au verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Et pour vous en convaincre que tout cela sera une bénédiction pour le monde qui nous entoure, je vous cite deux textes d'Ésaïe. Notez la référence, Ésaïe 32, verset 14. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera en paix, sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Et puis au chapitre 43 et au verset 18... Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Se lève ensemble. Et on supplie Dieu d'envoyer des fleuves dans nos solitudes, supplie Dieu d'envoyer l'Esprit dans nos déserts et que la puissance de Dieu se manifeste. Seigneur, nous venons devant toi, cherchons ta face, nous avons besoin de ta grâce. Nous réalisons que nous sommes perdus sans toi et nous réalisons que nous avons trouvé la vie avec toi. Merci pour ce que tu nous enseignes concernant cette manifestation du Saint-Esprit et ce parler en langue individuelle, ce parler en langue personnelle. Je veux grandir dans ce domaine-là et je veux le faire plus encore tous les jours. Je veux le faire davantage encore, même si je ne vois pas comment les choses vont changer. Je comprends pourquoi je dois le faire. Je veux mieux te servir, je veux mieux t'adorer, je veux mieux être un intercesseur, mieux prier, être gagnant dans cette bataille contre les difficultés, la peine, la mort. Mais nous croyons, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, que les malades sont guéris. Nous l'avons proclamé que Jésus a tout accompli. Nous l'avons annoncé qu'il est le libérateur. Alors Seigneur, manifeste-toi par une effusion de l'Esprit, manifeste-toi. Seigneur, sers-toi de nous et que nous puissions grandir dans cette œuvre-là, grandir dans cette tâche-là et faire des progrès, des progrès, des progrès encore. Nous voulons aller plus loin avec toi et être un instrument fidèle entre tes mains. À toi la gloire, à toi l'honneur et la louange. Sers-toi de nous, utilise-nous, sers-toi de nos bouches pour t'apporter la louange qui te revient. Que ton nom soit béni. Raccompagne-nous avec ta grâce. Raccompagne-nous dans ta paix. Garde-nous, je t'en prie. Et bénis les jours à venir, bénis la réunion tout à l'heure, qu'elle soit toute à ta gloire et qu'il y ait des guérisons, que les malades soient sauvés, délivrés, guéris
et que ceux qui sont perdus te trouvent. C'est là notre prière, au nom de Jésus. Amen.